Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois aujourd'hui dans Milkshaker Anaïs. Anaïs a vécu un postpartum particulièrement compliqué physiquement suite à une césarienne et différentes complications qui l'ont alitée durant de longues semaines. Et alors que l'allaitement n'était pas une volonté profonde, qu'elle voulait juste essayer comme beaucoup, elle en a fait un objectif. Elle avait mal partout, elle ne pouvait pas bouger, l'allaitement lui-même était douloureux, mais elle en a fait une sorte de fil rouge, une façon pour elle de créer du lien avec sa fille dont elle ne pouvait pour ainsi dire pas s'occuper autrement. Et tant bien que mal, cet allaitement a duré 6 mois, jusqu'à décider de la nécessité d'un sevrage pour reprendre le travail. Après moult rebondissements, propositions de biberons infructueuses et privation du sein, Iris a finalement pu être sevrée. Et c'est ainsi qu'Anaïs a connu le milk blues, cette sorte de dépression qui peut arriver à la suite de l'arrêt de l'allaitement et dont peu de mamans parlent. Dans cet épisode, on parle donc de 6 mois d'allaitement intense à différents points de vue. De quoi agiter Milkshaker qui était impatient de vous retrouver. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anaïs, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour Charlotte.
Anaïs, merci d'intervenir dans Milkshaker aujourd'hui. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as des enfants ?
Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai 32 ans, j'ai une petite fille de 2 ans qui s'appelle Iris et je suis chef de projet dans une entreprise à Paris dans la tech. Voilà.
Anaïs, tu as donc allaité ta fille ? Combien de temps est-ce que tu l'as allaitée ?
Alors j'ai allaité Iris pendant 6 mois, j'ai fait le choix de faire un allaitement exclusif et il a duré 6 mois jusqu'à l'entrée en crèche en fait.
D'accord. Avant d'allaiter, est-ce que ça avait une signification particulière pour toi l'allaitement ? Est-ce que c'était une évidence ou au contraire est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place sur le tard ?
Ah, pas du tout. C'était pas du tout une évidence, j'étais même partie sur le fait que j'allais pas allaiter. Il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient en fait dans l'allaitement. J'avais un peu peur de l'allaitement en public, du regard des autres si je devais un jour sortir mon sein, cette arme fatale. et j'avais peur de pas avoir de liberté. Je me disais, si j'allaite, je vais pouvoir rien faire d'autre en fait. Et ça m'attirait pas du tout. Donc je me suis renseignée sur l'allaitement, j'ai lu énormément de choses. Généralement, ce que je fais, c'est que quand je suis contre un truc, j'essaie de lire, de me renseigner énormément sur le sujet pour pouvoir me dire, ok, ça, tu, c'est un truc qui te met pas à l'aise, mais au moins tu sais pourquoi. Tandis que là, à part mes convictions personnelles, j'avais aucune connaissance sur l'allaitement. Et en fait, je voulais pas m'auto-censurer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Non, non, mais c'est hyper intelligent comme démarche. C'est assez rare pour être noté.
je fais ça avec beaucoup de choses. Et,
donc, on peut dire que t'étais contre, finalement.
Ah ouais, 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 j'étais contre l'allaitement. Je me disais qu'en plus, j'allais allaiter en plein été. Ça allait pas être agréable. Ça allait pas être confortable. J'avais entendu tout et son contraire.
Qu'est-ce que t'avais entendu? Qu'est-ce que t'avais, ouais, comme idée reçue qui faisait que c'était un truc qui te tentait pas?
Bah, les douleurs liées aux crevasses, par exemple. Mm-hmm. Je savais même pas ce que c'était qu'une crevasse. Je l'ai su le jour où j'ai allaité, d'ailleurs.
Tu savais pas ce que c'était, mais t'en avais peur, en tout cas.
Ouais, exactement. Et ouais, il y avait surtout cette sensation de liberté. Et après, je me suis renseignée sur les bienfaits du lait maternel et je me suis dit, écoute Anaïs, tu peux pas, c'est ton premier enfant, tu peux pas rejeter un truc que t'as pas essayé. Au pire, essaye les premiers jours, une ou deux semaines, et tu verras comment tu te sens. Et j'en avais parlé avec mon gynéco qui m'avait dit que si j'allaitais une semaine, il y avait au moins le premier liquide.
Ouais, le colostrum.
Exactement. À chaque fois, je confonds colostrum et méconium, c'est pas du tout la même chose.
Pas tout à fait. Ça ne sort pas des mêmes orifices.
Non, pas du tout.
Et ça n'a pas les mêmes valeurs nutritives, ma foi.
Pas du tout, pas du tout.
Donc, le colostrum, exactement. Elle aurait au moins ça.
Exactement. Il m'avait dit, voilà, si vous pouvez au moins lui donner votre colostrum, bah, c'est déjà top, quoi. Donc, je m'étais mis ça dans la tête. Et j'avais rédigé sur mon projet de naissance.
Ok, donc objectif colostrum au minimum et on verra ce que ça donne.
Voilà.
Et alors, tu arrives à l'accouchement. Comment se passe son accouchement?
Mal. Bien.
Ok. Est-ce qu'il y a une histoire de méconium?
Pour te dire, j'ai eu une césarienne d'urgence, donc je n'ai pas vu le méconium. C'est Paul, mon mari, qui a changé Iris les premiers mois, on va dire ça comme ça, et qui s'est occupé d'elle. Donc du coup, il m'a montré de loin à quoi ça ressemblait. En me disant que c'était très... ça ressemblait à du goudron.
Ouais, un peu.
Et sinon, j'ai eu un accouchement compliqué. Et en fait, j'étais tellement épuisée, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, jamais j'aurai la force d'allaiter. C'est pas possible. Donc, quand on m'a amené Iris, on a essayé une mise au sein qui a été un échec total.
Ouais. Parce qu'elle voulait pas prendre...
Elle dormait, elle était épuisée.
Elle dormait. Ah, vous étiez toutes les deux crevées.
C'est ça. Donc, elle a dormi pendant 2 heures, au moins. Elle passait son temps à dormir. Et donc, il y a une infirmière qui rentre dans la chambre et qui me dit, voilà, est-ce que vous voulez qu'on retente une mise au sein? Et je lui dis non. Non, je ne veux pas retenter une mise au sein. Franchement, j'ai trop mal. Je ne suis pas bien. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Elle me dit, c'est dommage, vous devriez tenter. Et je lui dis non, en fait, non. Et j'avais bien spécifié sur mon projet de naissance que si je refusais l'allaitement, qu'il fallait me pousser. Donc je ne sais pas si elle l'a lu.
Ah, t'avais noté ça en plus. Ouais. Donc t'avais quand même mis un petit step en plus. C'est-à-dire que c'est, si je dis non, quand même, dites-moi oui, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je ne sais pas si elle l'a lu et si c'est pour ça qu'elle a un petit peu insisté. Et elle m'a dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attendre une petite heure. Je lui donne une pipette de lait avec mon doigt. Et comme ça, il y a un petit travail au niveau digestif qui commence à prendre. Et elle m'a dit, je reviens vers vous et on retente une mise au sein.
Et ton mari, du coup, qu'est-ce qu'il disait, lui? Parce qu'il savait, pareil, que tu voulais allaiter, mais à ce moment-là, t'es fatiguée, et il abonde dans ton sens, ou il se souvient du projet de naissance, et pareil...
Alors, il se souvient du projet de naissance, mais en fait, je pense qu'il est trop perturbé par la césarienne d'urgence, par Iris qui dort. En plus, quand elle est née, elle avait des problèmes de régulation de température. Donc, du coup, je pense pas que l'allaitement, c'était son... target premier, mais je pense qu'il avait pas, il aurait pas imaginé autre chose non plus. Tu vois.
D'accord.
Parce qu'on s'était dit, bon, je vais tenter l'allaitement, mais si je le tente, je tente vraiment. Sinon, je le tente pas, quoi.
Ok, donc du coup, elle revient une heure après, elle a un tout petit peu nourri Iris avec une pipette sur le doigt, et quand elle revient une heure après, est-ce que toi, tu te sens ok pour essayer?
Je suis toujours aussi épuisée, mais je me dis, je vais tenter. Je tente, et là, la mise au sein fonctionne.
D'accord.
Et ça a été, c'était trop bizarre parce que je me souviendrai toute ma vie de ce moment où Iris a pris mon sein, c'était animal, quoi. Tu vois, c'était pas, tu sais, quand tu vois des mamans qui allaitent, c'est une vision très douce. Et quand il y a la première mise au sein, j'avais l'impression qu'elle était en train de me mâchouiller le téton. Et ça m'a fait tellement mal, je m'y attendais tellement pas à ce que ce soit aussi fort, tu vois, la prise, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, le truc est puissant. On voit ça comme un truc hyper doux et tout, mais c'est pas très agréable. Et du coup, Iris est restée une vingtaine de minutes sur un sein. Donc déjà, au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus. Je l'ai passé sur l'autre sein. On m'a dit, non, il faut pas... Enfin, faut changer plus régulièrement pour éviter justement d'avoir mal, quoi.
D'accord. Donc ça, c'est la première tétée, finalement. Ça se passe dans la douleur. Iris arrive à prendre le sein. Est-ce que ça te donne envie de continuer? Est-ce que là, tu te dis, bon, allez, mon projet, c'était la première semaine, je vais tenir le coup comme ça une semaine Qu'est-ce qui te vient à la tête à ce moment-là?
Mais en fait, j'étais tellement en souffrance physique dans mon corps que je le dis souvent, l'allaitement, pour moi, ça a été douloureux, mais en fait, c'était pas si douloureux que ça.
D'accord.
Les cicatrices, ma cicatrisation a été très lente, j'avais vraiment de grosses douleurs physiques, des douleurs au niveau du dos, et j'étais tellement emprise par ces douleurs-là que les tétés d'Iris me faisaient mal, parce que j'ai eu des crevasses pendant un bon moment, mais j'avais plus mal ailleurs, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, finalement...
La douleur la plus forte gagnait sur...
Exactement. Donc en fait, l'allaitement, je vais te dire qu'il s'est mal passé, mais bien passé.
Ok. Donc tu as des crevasses, chaque tétée fait mal,
ouais,
tes seins s'abîment.
Exactement. Et en plus, je suis arrivée, vu que je me suis renseignée, je suis arrivée avec tout. J'avais la crème l'anis loche, j'avais les coquilles en argent, j'avais tout pour prévenir la douleur. Bon, j'ai pas l'impression que c'est changé grand chose. Je pense que c'était plus psychologique qu'autre chose. mais ce qui a vraiment changé ma vie, par contre, c'est le bout de sein. Alors ça, c'est révolutionnaire. Ça a été révolutionnaire pour moi parce qu'il y avait vraiment un sein où j'arrivais pas du tout à... C'était trop douloureux, quoi. Mais ça m'a pas donné envie d'arrêter. Bien au contraire, je me disais, bon... on me disait, vous savez, les crevasses, ça dure pas très longtemps. Et j'avais une conseillère en lactation donc, qui venait nous voir dans la chambre et qui essayait différents positionnements. Mais il n'y avait rien à faire. Ça me faisait mal. Il n'y avait pas de position, de bonne position. Et puis surtout, quand j'ai eu ma montée de lait, c'était assez impressionnant. Parce que je l'avais oublié.
T'avais oublié quoi?
La montée de lait, j'avais oublié que ça allait arriver. Parce que tu sais, après la césarienne, tu sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Des fois, ça arrive un tout petit peu plus tard. Et je suis allée prendre ma douche. J'ai senti une forte chaleur dans la poitrine. Et je suis revenue. Et là, Paul me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, comment ça? Il me dit, mais ta poitrine a triplé de volume. Et là, en fait, j'avais deux obus qui avaient poussé en 10 minutes. Et qui était tellement dur et tellement douloureux, c'était horrible. C'était du bois. Mes seins étaient du bois et tellement ils étaient gros, c'était déformé. C'était impressionnant.
Et alors, elle a réussi à téter comme ça?
Alors, elle a bien réussi à téter parce que je manquais pas de lait.
Ouais,
apparemment.
Visiblement.
Elle a bien réussi à téter et elle tétait toutes les 2 heures et... Et donc, on m'a parlé de l'allaitement à la demande. Ça, j'étais pas très renseignée sur le sujet, mais honnêtement, il n'y a pas trop de renseignements à avoir. Hein. C'est quand l'enfant pleure, tu tentes.
Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, on essaie autre chose.
Exactement. Exactement.
Ok, donc du coup, bon, tu t'embarques comme ça avec un bébé qui te fait mal, mais finalement, tu as tellement mal ailleurs que c'est tolérable. C'est juste la petite douleur, c'est comme un pincement ailleurs, si je comprends bien.
C'est ça.
Et elle arrive à téter, toi t'as une bonne montée de lait, elle s'en sort tant bien que mal, mais en tout cas elle mange et vous sortez de la maternité comme ça.
Voilà.
Elle a un bon rythme. Et là ton projet il prend une tournure différente, tu te dis quoi? Tu te dis que cet allaitement, tu vas vouloir que ça continue plus que la première semaine, comment ça évolue? Ah non, on te met les bouts de sein, à quel moment on te met les bouts de sein?
Alors j'en ai mis un à la maternité.
Ouais.
Et on me dit, voilà, gardez-le pas plus de 3 jours. Et en fait, ce sein-là, ça n'a jamais été possible. Donc, j'ai gardé mon bout de sein jusqu'au bout.
Tu avais un sein où tu allaitais avec un bout de sein et un Exactement. Sein où tu allaitais sans.
Exactement. Et ce qui était drôle, c'est que du coup, j'avais un sein petit et un sein gros, tu sais. J'avais le sein gauche qui faisait la taille, je sais pas, d'une orange, et j'avais le sein droit qui faisait la taille d'un gros melon. Parce qu'il y avait un sein qui produisait plus de lait que l'autre, et ça se voyait vachement, en fait.
Oui, parce qu'elle t'était mieux d'un côté que de l'autre.
C'est ça.
Ouais. Donc la réponse du sein, elle a fini par s'adapter à la façon dont la petite tétait.
Complètement.
Mais enfin, ce bout de sein, sauf quand même l'allaitement, enfin, un des seins, et donc l'allaitement à ce sein-là, ça te permet d'avoir moins de douleur, et tu persistes comme ça jusqu'à la fin de l'allaitement sur ce sein-là, t'as allaité avec le bout de sein.
J'ai allaité avec ce bout de sein-là, pas jusqu'à la fin de l'allaitement, mais j'ai allaité bien un mois et demi, parce que j'ai eu des crevasses pendant un mois et demi. Moi, on m'avait dit 5 jours, une semaine.
Ah ouais, ça, t'as joué les prolongations, là.
Ouais, on m'avait dit 5 jours, une semaine, après c'est pas normal et tout machin. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Parce que j'ai souffert vraiment pendant un mois et demi.
Et est-ce que tu t'es dit qu'il y avait un problème dans le fait de souffrir comme ça, de façon si prolongée, qu'il y a un sein où elles prennent pas bien? Est-ce que tu t'es dit, je vais reconsulter?
Non, en fait, j'étais tellement en souffrance physique intense, toujours, pendant des mois, que l'allaitement, comme je te dis, c'est malheureusement
c'est le dernier quelque chose problèmes.
Qui, ouais, quelque chose qui aurait dû m'alerter, m'a pas alerté directement. Et en plus, j'ai eu une infection de l'utérus et je le savais pas. Donc du coup, j'allaitais, j'avais des sueurs froides, enfin c'était assez violent. Mais j'ai continué mon allaitement. Quand j'y pense, je me dis que je suis complètement tarée.
Ouais, c'est marrant le gap qu'il y a entre la vision que tu as au démarrage de l'allaitement, les démarrages qui franchement sont difficiles. On comprend que malgré tout, c'est pas le premier de tes problèmes, mais c'est quand même un démarrage qui est compliqué.
Ouais.
Et tu continues dans la douleur, alors que c'était un truc que tu voulais pas vraiment faire, que tu t'étais fixé une semaine. Est-ce que tu as une idée de ce qui profondément, tu vois, te donnait l'énergie, la force et l'envie de continuer?
Déjà, je pense qu'avec la césarienne, je pouvais moins m'occuper d'Iris. Je pouvais pas la laver, je pouvais quasiment pas la porter. Je pouvais que l'allaiter. C'était le seul moment en fait où on était toutes les deux et on était ensemble. Et au final, cet allaitement que je voulais pas, je me suis dit que ça allait être un moyen de développer notre proximité. Et ça a bien fonctionné parce que je pense que ça a créé vraiment un lien très fort entre elle et moi.
Ouais, c'était ta façon de compenser le fait de pas pouvoir t'occuper d'elle comme tu l'aurais imaginé parce que ton corps te suivait pas.
Complètement.
Ok. Donc l'allaitement continue. Au bout d'un mois et demi, t'arrives à ne plus avoir de crevasses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait changer ça? Est-ce que tu vois un tournant, tu vois, dans l'histoire qui fait que t'as plus mal, ou c'est juste que tu t'es habituée et...
Non, je pense que mon sein a pris le rythme de l'allaitement et que finalement, au bout d'un mois et demi, voilà, ce qui devait cicatriser en 5 jours, a mis un peu plus de temps. Mais là, je me dis freedom, ça y est, je vais pouvoir être libre et profiter de l'allaitement sans douleur, parce qu'elle était toutes les 2-3 heures max en ayant mal toute la journée, tous les jours de ta life. C'est un peu compliqué.
Ouais, c'est un peu hard, ouais. Tu dis. Ouais. Ok, donc une fois que c'est en route, au bout d'un mois et demi, c'est comment l'allaitement avec Iris?
C'est top, elle est réceptive, elle prend bien du poids.
Toi, tu vas pas mieux physiquement?
Non, moi j'ai mis 3 mois physiquement à pouvoir sortir et me lever et marcher, enfin à reprendre une vie normale, quoi.
D'accord.
Donc je suis restée 3 mois alitée, ouais, quasiment. C'est vrai que pendant ces 3 mois-là, j'avais prévu un enterrement de vie de jeune fille avec une copine et des amis. Et je m'étais dit, bon, c'était avant l'accouchement, je me suis dit, bon, au bout de 3 mois, je partirai 3 jours. Donc en fait, très rapidement, j'ai commencé à tirer mon lait.
D'accord.
Pour faire du stock pour les 3 jours où je partirais. Donc j'étais pas sûre à 100% de partir, mais je me suis dit, au cas où, tire. Donc j'allaitais et je tirais mon lait en même temps pour faire des réserves pour que pendant mon départ, Paul ait assez de lait pour la nourrir. Je me suis rendu compte que tirer le lait, en fait, c'est pas si facile que ça, quoi. Et puis c'est bien douloureux aussi. J'avais un tirelet électrique, c'était pas très agréable. Tu sais, j'avais des petites décharges électriques après dans la poitrine.
Ouais.
Je sais pas à quoi c'était dû, mais c'était pas très agréable.
D'accord. Ouais, donc en plus tu t'es imposé entre guillemets le tirelet en supplément des tétés.
Non mais ouais. Suicidaire.
Et alors t'es partie à ce week-end au bout de 3 mois?
Je suis partie parce que j'ai passé 3 mois alitée en fait, quasiment, ouais. Tu vois. Et c'était mon rayon de soleil du moment, quoi. Je me suis dit comment je vais réagir au fait que pendant 3 jours je vais pas être avec Iris. En plus j'avais des pics de croissance. Iris faisait des pics de croissance, je crois. Mm-hmm. Et il y avait des moments où j'avais moins de lait, j'arrivais plus à tirer. J'allais sur des forums. Je lisais qu'il y avait des mamans qui tiraient, je sais pas moi, 500 millilitres par jour. Je me disais, mais comment elles font? Moi, j'y arrive pas. J'arrivais à tirer, tu sais, je sais pas moi. Si déjà j'arrivais à tirer 100 millilitres, c'était déjà la folie. Mm-hmm. Et il fallait absolument que je tire assez pour 4 jours. Et 4 jours sur un bébé qui tète toutes les 2 heures,
c'est beaucoup.
Ah ouais, c'est énorme. Donc je voyais vraiment ce départ comme le rayon de soleil de ma vie. En même temps, j'angoissais beaucoup à l'idée de pas être avec Iris pendant ces jours-là. Je suis partie et Paul a très bien géré les sacs de congélation, de décongélation. Lui, il aimait bien ce genre de trucs. Les quantités, les machins, les trucs, ouais. Et j'ai tiré mon lait au tirelet manuel pendant que j'étais en vacances. Et par contre, c'était de l'esclavage. C'était horrible. Parce qu'il fallait que je tire tout le temps, en fait.
Ben ouais.
Tout le temps. Et c'est très, très fatigant, le tirelet manuel.
Donc, du coup, tu pars en week-end, tu tires ton lait. Et quand tu reviens, ça se passe bien? Ta lactation, elle a réussi à se maintenir pendant ce week-end?
Ouais, ma lactation a réussi à se maintenir. J'étais beaucoup engorgée. Mmh. J'avais de gros engorgements, donc je tirais le matin, j'essayais de tirer le midi. Et puis tu vois, les enterrements de vie de jeune fille, t'es pas tout le temps chez toi, quoi. Donc je tirais partout, en fait. Au début, j'étais un peu gênée. Après, j'ai tiré à côté de mes potes. Je me disais, c'est pas grave, Anaïs, t'es plus à ça près. Parce que sinon, je pouvais même pas passer du temps avec eux. Parce que vider un sein me prenait, je sais pas, 45 minutes.
Ah ouais.
Ça me prenait énormément de temps en manuel.
Eh oui, le tirelet manuel, c'est pas pareil que l'électrique, ouais.
Non. Donc du coup, on faisait des apéros où on était deux mamans allaitantes et on tirait notre lait autour de la table, quoi.
Ah, donc vous étiez quand même deux.
Ouais, on était deux.
Ça permet de pas être seule avec son tirelet autour des copines qui boivent des coups et qui te regardent.
Complètement. Ouais,
pourquoi
complètement.
Tu fais ça? Ok. Donc très bien. Donc ça, c'est au bout des 3 mois de vie d'Iris, tu rentres, l'allaitement reprend sans souci,
pas du
sans
tout.
Encombre.
L'allaitement, en fait, j'arrive à l'aéroport. Première chose que je fais, c'est que je donne le sein à Iris. Mmh. Elle le prend et le lendemain, j'avais plus de lait. C'est-à-dire que je regarde ma poitrine, elle a dégonflé comme maintenant. Et là, je me dis, ok, il y a un problème. Donc Iris, elle veut téter. Je la mets au sein toute la journée et ça reprend pas, quoi. Ça reprend pas. Et là. Déjà, tu culpabilises, tu passes par différentes phases. Et j'ai une copine qui me dit, écoute, Anaïs, il y a des tisanes d'allaitement qui sont au fenouil, machin, je sais pas quoi, mm-hmm. qui sont en vente à la pharmacie. Et je cours en acheter, en fait, parce que pendant une journée, Iris a quasiment pas pu téter, j'arrive pas à tirer, il n'y a rien qui sort. Et j'avais vraiment envie de continuer cet allaitement, je voulais pas le mettre en jeu, quoi.
Ouais, la question donc, se pose pas, il faut que
non,
ça continue.
Il faut que ça continue. Donc, je la mets au sein pendant 2 jours, on reste collé, sein contre vous. Et en même temps, je prends la tisane. La tisane refait partir l'allaitement. Donc, je ressens un peu des chaleurs dans la poitrine et tout ça. Par contre, les selles d'Iris sont très différentes. Tu vois, je sens que même si c'est naturel, il y a un truc qui est pas comme. Il y a un truc un peu bizarre.
Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce qui est bizarre?
La texture de ces selles est bizarre.
D'accord.
Et je continue quand même à prendre la tisane en me disant, bon, peut-être que... je connais pas l'impact direct de cette tisane sur la qualité de mon lait et d'accord. sur comment Iris, elle, rejette après tout ce qu'elle doit rejeter. Okay. Et j'ai continué à boire la tisane pendant plusieurs semaines. Quand j'ai senti que j'étais à l'aise, je l'ai arrêté. J'ai continué en parallèlement à tirer mon lait pour les sorties, etc.
Ok, et là, ça repart comme en 40.
Alors, ça repart, mais je pense que c'est jamais reparti comme avant.
D'accord.
Comme les trois premiers mois.
L'adaptation, elle n'a jamais réussi à se remettre au diapason, tout à fait. Iris mangeait quand même assez. Elle avait ce qu'il lui fallait.
Iris mangeait assez, elle avait ce qu'il lui fallait. Elle ne perdait pas de poids, elle prenait toujours du poids. Donc ça, c'était hyper, hyper rassurant. Et en plus, nous, on était assez angoissés au début. Parce que quand je suis revenue, je me suis dit, mon Dieu, si elle ne t'aide pas, elle va peut-être perdre du poids. Si elle perd du poids, comment on fait? Donc, on avait loué une balance à la pharmacie.
Ouais.
Et c'est horrible de louer une balance parce que du coup, tu as envie de peser ton bébé tous les jours.
Ouais, c'est assez anxiogène.
Exactement. Donc, du coup, on l'a rendue. Au bout d'une semaine, je lui ai dit, je ne veux plus voir la balance. Laissons faire les choses, quoi. Tant que le pédiatre nous dit que ça se passe bien, que Iris est en bonne santé, qu'il n'y a pas de soucis, etc., il n'y a pas de raison de changer de rythme.
Ok. Tu parlais de Paul, le papa. On entend que dans les démarrages de ton postpartum, il a, un peu par la force des choses, été très présent parce que toi, tu n'étais pas bien physiquement et que tu ne pouvais pas faire tout ce que tu avais imaginé faire. Quelle place tu penses qu'il a pris dans cet allaitement? Est-ce que... comment lui, il l'a ressenti, ou en tout cas, comment toi, tu l'as ressenti pour lui, tout ce qui s'est passé?
Alors oui, il a pris, en fait... Bon, déjà, je pense qu'on ne s'attendait pas à la césarienne d'urgence et Paul a vraiment assuré dès le départ. Il a pris son rôle de père, je ne sais pas trop comment expliquer, mais il ne s'est pas posé de questions, il a foncé. Il faisait les allers-retours à la maternité, il faisait les machines, il s'est occupé de tout l'administratif, il s'occupait d'Iris, il était là toutes les nuits avec nous. Enfin, il ne s'est pas arrêté, quoi. Il s'est pas arrêté, il a tout fait. Et sa manière à lui de contribuer à l'allaitement, c'était de faire en sorte que je fasse le moins de choses possible. Donc, il nettoyait mes tétérelles, il allait chercher tout ce dont j'avais besoin, il faisait les machines pour que j'ai des soutiens-gorge d'allaitement propres. Quand on est rentré à la maison, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était congélation, de tous les sachets.
Il a fait toute la logistique, finalement.
Ouais, toute la logistique de l'allaitement. Pour que mon allaitement se déroule le mieux possible et que j'ai à penser à rien d'autre.
Ouais, donc connaissait... c'était génial.
Ah ouais, franchement, génial.
C'était un truc sur lequel vous aviez échangé avant? Non, du coup, pas tellement,
pas
parce que pas instinctivement, ça s'est mis en place. Il n'y a pas eu d'ajustement à faire. Il a pris sa place.
Exactement.
Comme
il se levait toutes les nuits pour m'apporter Iris quand elle pleurait aussi, pour pas que j'aie à me lever avec ma cicatrice et tout ça. Donc j'ai envie de dire qu'on a allaité à deux.
Ouais.
Vraiment, pour le coup.
Tu disais que tu avais continué d'allaiter jusqu'à 6 mois, au moment où Iris est allée à la crèche. Toi, c'est le moment où tu reprends le travail aussi, peut-être?
Alors oui, je commence un nouveau travail à ce moment-là et j'appréhende parce que je me dis, bon, bah, comment on va faire avec l'allaitement, quoi? Comment on va faire? En plus, on était dans une situation qui n'était pas idéale parce qu'on était en plein déménagement. Donc, il y avait le déménagement, l'entrée d'Iris à la crèche et moi qui reprenais un nouveau boulot.
Oui, ça fait beaucoup de changements.
Oui, ça fait beaucoup de changements. Et du coup, on s'est dit, bon, on va penser au sevrage. Voilà, on va le faire. Moi, je voulais continuer à donner une tétée le matin et le soir.
D'accord.
Le problème, c'est que j'ai un travail où j'ai 20% de déplacement. Donc, une semaine par mois, je devais être à Paris. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais... Enfin, je ne voyais pas comment j'allais arriver à faire tétée Iris le matin et le soir. Et pendant une semaine, rien. Tu vois. Et puis revenir, etc. Et donc, on a pris du coup la décision de faire un sevrage.
Mmh.
Et de commencer par la même occasion l'introduction aux aliments.
D'accord.
Puisque c'était vraiment 6 mois d'allaitement exclusif, quoi.
Ok. Comment tu vis cette décision, toi, pour qui finalement l'allaitement avait pris une importance plus que ce que tu imaginais vu le contexte? Est-ce que c'est ok pour toi de sevrer à ce moment-là?
Non, je pense que j'étais pas prête et que je voulais pas, mais j'avais pas le choix.
T'as eu l'impression de pas avoir le choix?
Ouais.
La reprise du boulot te l'imposait? Mmh.
La reprise du boulot l'imposait. Et puis, on était bien avec Iris dans notre allaitement. Il n'y avait rien qui clochait. Et là, le fait de se dire que je dois arrêter parce que je reprends le travail, j'étais un petit peu dégoûtée. Et donc, j'essayais d'en parler avec Iris. Je lui disais, tu sais, bientôt, on va devoir arrêter l'allaitement. Et ça a été très compliqué. Elle a fait son entrée à la crèche.
Mmh.
Et donc, j'ai tiré mon lait. J'ai tiré mon lait pour qu'elle prenne le biberon. J'ai essayé de... Avec Paul, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser donner le biberon à Iris à la maison pour qu'elle s'habitue à avoir le biberon. Iris ne voulait pas le biberon. Elle voulait pas de cuillère, elle voulait rien. Rien, c'était le sein, le sein, le sein, le sein, le sein.
Refus d'obtempérer.
Ah, mais c'était catégorique. Et là, j'ai commencé à appeler des amis qui avaient des enfants. Je leur ai dit, mais comment vous avez fait pour sevrer comment vous avez fait? Et donc, 99,9% des gens nous disaient, on lui donnait plus, jusqu'à ce qu'elle prenne le biberon. Et moi, je me disais, c'est pas possible, c'est horrible, je vais pas y arriver. Mmh. Et je me souviens, je fêtais mes 30 ans. Je fêtais mes 30 ans pendant cet été-là. Donc, c'était cet été-là, pas t'été.
Ouais. <C'est>... Ouais. J'ai fêté mes 30 ans pendant une tété.
Exactement. Et j'avais tiré mon lait pendant 2-3 jours. Et donc, on était, Iris était avec nous et bah, je voulais boire. Mm-hmm. Donc, je m'étais dit, bon, ok, je.
C'est le moment.
Je tire mon lait et en même temps, voilà, on commence petit à petit à lui donner le biberon, etc. Avec Paul, le refus était catégorique, mais sur un malentendu, parfois, elle en prenait un. Donc, on était quand même un petit peu serein, tu vois. On s'est dit, ah, ça va doucement, mais sûrement. Donc, le jour de mes 30 ans, je bois. On lui donne le biberon, Iris hurle. Elle hurle parce que j'ai l'impression qu'elle sait que je suis là et qu'elle comprend pas pourquoi je lui donne pas le sein, quoi. Et en fait, il y avait rien à faire. C'était des hurlements à n'en plus finir. Et moi, pendant ce temps-là, ben, ma poitrine appelait, enfin, était à l'écoute des pleurs. et j'ai dû l'allaiter ce jour-là en ayant bu. Donc j'ai vachement culpabilisé. Mais en fait, il y avait rien à faire. Impossible de la calmer.
Il y avait que ça pour la calmer.
Ah ouais, il y avait que ça pour la calmer. J'ai déculpabilisé aussi par rapport à ça, parce que tu sais, quand tu bois et que t'allaites, tu te dis, mon Dieu, je vais empoisonner mon enfant.
Ouais. Alors t'appuies que, sur le bouton rouge de la culpabilité maternelle.
Exactement.
Hyper fort.
T'appelles ta sage-femme ou ton pédiatre qui te disent, bon, bah, c'est pas comme si vous le faisiez tous les jours, quoi, c'est exceptionnel. Si vous le faites une fois en 6 mois, votre enfant ne va pas. Voilà, c'est ça, il n'y aura pas un troisième bras qui va pousser. Donc, fast forward, on arrive à l'entrée en crèche. Et le premier jour, l'adaptation se passe bien et se passe trop bien. Je me dis, ça sent mauvais.
T'étais optimiste.
C'est ça. Je me dis, parce qu'en fait, je sentais qu'Iris était calme pendant l'adaptation, mais qu'elle était, intérieurement, je savais qu'elle n'était pas bien. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tu vois, ça faisait 6 mois qu'on était collés ensemble à vivre notre amour fusionnel. Et là, elle comprend petit à petit qu'il y a un truc qui va pas. Donc, l'adaptation se passe bien. Là, le dernier jour, elle a passé une demi-journée, ça se passe bien. Donc, je me dis, bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que mon pressentiment n'est pas légitime. Et le lundi, donc, on arrive à la crèche. En plus, j'étais la seule maman allaitante sur 12 enfants dans la section. Et donc, je ramène mon lait, etc. En plus, c'est très protocolaire dans les crèches, c'est hyper relou. Et 2 heures plus tard, on m'appelle, on me dit « Bonjour madame, votre fille ne veut pas. » C'est catégorique, elle ne veut pas prendre le biberon. Et là, elle est entre guillemets en détresse. Ça veut dire qu'elle a faim, qu'elle hurle et qu'il n'y a rien à faire.
Aïe.
Donc, il faut que vous veniez l'allaiter. Donc là, je prends ma voiture, je vais jusqu'à... J'avais commencé le boulot les premiers jours, tu sais. T'es en pleine réunion. Excusez-moi, je dois allaiter ma fille, je reviens. Et on a tout fait pour qu'Iris allaite en toute, enfin pour qu'elle prenne le biberon, pardon, mais il y avait rien à faire et ça a duré 1 mois comme ça. Donc pendant 1 mois, je suis allée 3 fois par jour à la crèche. Donc pour te dire, heureusement que je suis en télétravail. Hein, j'ai trouvé un hôtel juste à côté de la crèche. Donc tous les matins, j'allais à l'hôtel et j'attendais qu'on, enfin je bossais à l'hôtel. Mmh. Et quand on m'appelait, je fermais mon ordi, j'allais allaiter Iris.
D'accord.
Je retournais à l'hôtel et c'était juste pas possible. Ce rythme-là était trop violent et puis on m'appelait à n'importe quel moment. Donc il y avait des moments où j'étais en réunion. Quand c'est toi qui anime des réunions, bah c'est juste pas possible de dire aux gens. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis la crèche, eux, ils expliquaient qu'ils pouvaient pas laisser Iris en détresse comme ça et moi non plus. Donc c'était drôle parce que quand j'arrivais, elle me faisait un grand sourire. En mode, je savais que t'allais venir.
Oh, chouchoute.
Ouais. Donc, ça me faisait trop de peine. Et je me
disais, ça a duré 1 mois comme ça.
1 mois comme ça, tous les jours, 3 fois par jour.
Et après, comment vous faites? À quel moment vous trouvez une solution? Qu'est-ce qui marche pour la convaincre de prendre le biberon?
On introduit les aliments, et Iris est réceptive.
D'accord, donc c'est la diversification en fait qui fait qu'elle se nourrit en journée. Et...
Donc on nous dit, voilà, essayez de remplacer la tétée de l'après-midi par un yaourt. Mmh. Au moins, vous vous déplacez une fois en moins.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et on ne savait pas qu'Iris était allergique aux protéines de lait de vache. Moi, tout va bien.
Comme si ce n'était pas suffisant.
Voilà, mais on avait des doutes. On avait des doutes. Donc, à la crèche, ils nous disent, introduisez d'abord le yaourt chez vous un soir. Et si vous voyez que ça passe bien, ben, le lendemain, vous nous l'amenez. Donc, on achète de petits yaourts pour bébé. Hein. On donne 3 cuillères à Iris. Et là, geyser de vomi. Elle vomit tout ce qu'elle a, fait une grosse éruption cutanée, elle hurle, elle se tord de douleur. Donc, on a pris rendez-vous avec un allergologue, et Iris est effectivement allergique, a une très forte allergie aux protéines de lait de vache, donc déjà c'était mort pour le yaourt. Et il nous a déconseillé, parce qu'elle était encore petite, d'introduire le lait d'un autre animal. Parce qu'on s'est dit, bon, le lait de chèvre.
Mais attends, là, elle a quel âge? Parce que tu reprends le travail quand elle a 6 mois révolu,
ouais.
C'est ça?
Ouais, révolu.
D'accord, donc en fait, t'as allaité plus de 6 mois.
Quoi?
Je dis, au final, t'as allaité plus de 6 mois, parce que si tu reprends au moment où elle va à la crèche,
c'est vrai,
et que
c'est
tu continues
vrai,
de l'allaiter, tu vois, il est en train de se passer je ne sais pas combien de temps, un mois de plus, donc on est déjà
exactement,
à 7, où en fait, tu l'allaites toujours. Pas exclusivement, il y a de la diversification, mais enfin ouais. Si en termes de d'apport en lait, c'est exclusif. Et t'es pas parti, tu dois partir à Paris, si j'ai bien compris. Il y a une semaine où tu dois partir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu pars pas?
Alors non, vu que je commençais, je suis partie un petit peu plus tard, donc déjà ça m'arrangeait.
D'accord.
Et le sevrage s'est fait pendant un week-end. Donc j'appelle mes amis, je leur dis comment vous avez fait. J'appelle 3 couples différents qui me disent Anaïs, tu lui donnes pas le sein. Essaye de ne pas lui donner le sein pendant 2 jours, tu verras, un enfant ne se laisse pas mourir de faim, elle prendra à la fin le biberon. Et donc fin septembre, on part en Italie en week-end, et avec Paul on se dit bon, on va tenter à ce moment-là. Donc on lui donne ses aliments, le matin, midi, soir, pour bien compenser. Moi, j'avais mes engorgements quotidiens, donc je tire. J'avais qu'une envie, c'était de lui donner le sein. C'était horrible, parce qu'en fait, c'était une attirance physique. Tu sais, on était comme aimantés et on devait se séparer, quoi.
C'était la lactation qui rattrapait
exactement
tes envies.
Et pendant ce week-end, Iris ne pleure quasiment pas. Elle ne demande quasiment pas le sein. Avec Paul, on se dit, waouh, trop bien. Et donc, on rentre le dimanche soir, et là, hurlement. Et en fait, on pleure toutes les deux. J'étais assise avec elle, je la prenais dans les bras, je lui tends le biberon de lait. En plus, moi, j'en pouvais plus parce que je tirais du lait que je jetais finalement, parce que je l'amenais quand même tous les jours à la crèche, le lait, au cas où. Mmh. Et tous les jours, mon lait avait servi à rien. Et moi, je tirais, ça me faisait mal. Parfois, je saignais en tirant, tu vois. Donc, c'était même plus possible physiquement. Et ce soir-là, Iris et moi, on pleure toutes les deux. Je pense qu'on a pleuré pendant 40 minutes parce que j'avais envie de lui donner le sein, qu'elle voulait mon sein, mais qu'en fait, la situation était trop compliquée, quoi. Et elle a pris le biberon ce jour-là, pour la première fois. Donc, c'est moi qui lui ai donné. Après avoir pleuré, épuisé, et Paul et moi, on était dévastés, quoi. Parce que c'était pas du tout... Enfin, on avait tout fait... on avait essayé de tout faire pour que ce soit... Je voulais vraiment pas... qu'elle vive ça comme une frustration, tu vois, et essayer de le faire en douceur, mais on n'a pas réussi.
Donc ce soir-là, elle prend le biberon, et après, Elle décide, enfin, elle continue de le prendre à la crèche le lendemain, c'est ok.
Ouais, elle reprend le biberon et tout. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Je dis, bah, on a fait ce qu'on ne voulait pas faire.
Ouais.
Le sevrage Ardos. Et après, moi, je ressens quelque chose de bizarre pendant qu'elle prend son biberon. Je suis dégoûtée qu'elle prenne son biberon. Je ne sais pas comment expliquer.
Ce que tu avais tant voulu, là.
Exactement. Je me dis, mais en fait, je ne sais pas que je ne lui manque pas, mais en fait, elle arrive bien à vivre sans moi. Tu ouais. vois. Et ça, c'était hyper dur. Et à ce moment-là, on a introduit un lait... Enfin, je ne tirais plus. Hein.
Mm.
On a introduit un lait et donc je ressentais des choses un peu bizarres. Je me disais, ah, mais finalement, le biberon, elle le prend bien. Elle l'aime bien. Elle était toute excitée quand elle le voyait. Et moi, j'étais là un peu déprimée, tu vois. Ouais.
Elle était passée à autre chose, mais toi, non.
Ah ouais, complètement. 9 jours après, c'était terminé. Elle était passée à autre chose, mais pas moi. Pas moi. Et des fois, quand je l'avais sur ma poitrine et que je jouais avec elle, elle touchait mon sein. Elle enlevait une partie de mon t-shirt. Elle regardait mon sein et elle me regardait. Et après, elle remettait le t-shirt. Et là, moi, ça me brisait le cœur. J'avais envie de lui dire, mais vas-y, prends-le, c'est pas grave.
Est-ce qu'en fait, ce sevrage n'était pas plus difficile pour toi que pour elle, depuis le démarrage?
Je pense qu'il était autant difficile pour elle que pour moi, parce qu'on n'était pas prêtes toutes les deux. On ne voulait pas. On ne voulait pas s'arrêter. Moi, je ne voulais pas arrêter. Et puis, comme l'allaitement se déroulait bien, je me disais que j'allais allaiter, je ne sais pas, pendant un an peut-être, tu vois. Mm. Et après, par contre, c'est sûr qu'elle est passée rapidement à autre chose, sauf que moi, non. Moi, j'ai mis, je pense, un mois à m'en remettre, on va dire, psychologiquement. J'ai eu une bonne déprime, je pense. C'est pour ça que je te disais, on pourrait l'appeler le milk blues.
Ouais, c'est un truc qui est récurrent.
Et je ne savais pas, j'en avais jamais entendu parler. Et je me demandais si c'était normal. Et quand, des fois, on prenait le bain toutes les deux... j'avais qu'une envie, c'était de... Parce qu'elle regardait ma poitrine, tu vois. Elle regardait ma poitrine et elle faisait non avec sa tête. Non.
Oh, bichette.
Ouais. Compliqué.
Ouais, donc toi, t'as senti une sorte de vague de déprime suite de la fin de l'allaitement.
Complètement. Je pense que je suis toujours... Enfin, je vais pas dire que je suis toujours déprimée, mais je pense que je suis toujours frustrée d'avoir arrêté quand on n'était pas prête. En plus, il y a eu Covid derrière. Donc Paris, j'y suis allée 3 fois. Et je me suis dit, on aurait pu gérer le truc. Parce que derrière, on a été confinés. Et là, j'aurais pu allaiter comme bon nous semblait.
Ouais, donc en fait, t'as regretté cet arrêt d'allaitement, ce sevrage.
Je l'ai regretté, mais en même temps, il n'y avait vraiment pas d'autre...
Oui, à l'instant T, il n'y avait pas d'autres options.
À l'instant T, il n'y avait pas d'autre solution. Je l'ai regretté, mais on n'avait pas le choix. Donc, c'est un regret avec du recul, tu vois.
Mmh, mmh. T'en as parlé autour de toi de ton état d'esprit, tu vois, par rapport à cet allaitement, à ce que ça avait généré chez toi, autant en positif pendant, parce que tu t'attendais pas à ça et que t'as eu envie que ça dure plus, et à la fois sur l'aspect plus négatif, entre guillemets, à l'arrêt, quand tu te rends compte que vraiment, encore plus de l'importance que ça avait dans ta relation avec ta fille. Est-ce que tu en as parlé autour de toi, que tu as échangé avec des amis, la famille sur le sujet?
Déjà, l'allaitement, j'ai trouvé ça hyper controversé. Quand tu en parles aux gens, tout le monde a des idées très arrêtées. Mmh. Donc, quand j'ai commencé à allaiter et que je souffrais, 80% des gens me disaient « Non mais Anaïs, pourquoi tu te... Déjà que tu es en souffrance, pourquoi est-ce que tu te rajoutes un truc en plus ?» Limite, je le cherchais, quoi, tu vois. Pourquoi tu te rajoutes un truc en plus Moi, j'ai bu du lait de vache, je suis pas mort. Enfin, voilà, c'était ce genre de réflexion-là. Et en fait, je trouvais que les gens n'aidaient pas, en fait, autour à m'encourager à allaiter. Et dans ma bulle avec Paul, je retrouvais ce confort-là. Donc lui, je lui ai parlé de mon milk blues et je lui parlais de mes ressentis. Et après, je ne connaissais pas énormément de personnes qui allaitaient autour de moi. Déjà, il n'y avait pas énormément de parents qui avaient des enfants. Et ceux qui en avaient, n'avaient pas forcément allaité. Il y avait quelques mamans à la... Il y avait une maman à la crèche dans une autre section qui allaitait. Donc, j'en avais un petit peu parlé avec elle. Mais sinon, non. Parce que, Les gens sont assez critiques, je trouve. En tout cas, j'ai trouvé les gens assez critiques sur l'allaitement. Et puis, ils te découragent plus qu'autre chose, quoi.
Oui, t'encourages quand tu galères, plus à arrêter.
Exactement. Quand tu galères, c'est arrête. Quand tu allaites, c'est super bien allaité. Et quand tu arrêtes l'allaitement et que tu fais un sevrage, c'est assez dommage.
Ouais. Oui, à aucun moment t'as senti l'effet soutien que...
Non, pas du tout.
Que t'aurais aimé avoir.
Ouais, pas du tout d'effet soutien. Ce qui est très dommage, je trouve, parce que l'allaitement, c'est un... Bah, déjà, c'est un cheminement personnel, c'est un bouleversement physique, c'est un bouleversement émotionnel. Et derrière, ben, les gens donnent leur avis, mais ils ne sont pas à l'écoute en fait, de la personne. Et si quelqu'un a décidé d'allaiter, ben, elle a juste décidé d'allaiter, quoi. Ou si elle a décidé de sevrer, elle a décidé de sevrer. Mmh. Et c'est vrai que l'accompagnement en ce sens n'était pas optimal.
Ok. Mais à la maison, tu avais cette bulle dans laquelle ton mari et toi, vous étiez raccord sur le sujet et lui, il t'écoutait.
Oui, il m'écoutait et puis il comprenait. Puis quand je lui disais que j'étais dégoûtée d'avoir arrêté l'allaitement, il me disait, bah, c'est normal en fait, ça fait 6 mois que vous vivez toutes les deux collées ensemble. J'ai presque vécu l'allaitement comme une addiction, tu sais, comme une drogue que tu prends toutes les 2 heures ou une habitude en fait que tu as toutes les 2 heures et qui du jour au lendemain s'arrête. Et là, tu te dis, y a un truc qui te manque. Et c'est un manque bizarre, parce que tu as voulu cet arrêt, sauf que finalement, c'est pas dans le cadre où nous, on l'a, et de la manière dont on l'a sevré, c'était pas normal, et c'était pas notre décision, quoi. Notre décision profonde.
Tu te l'as imposé parce que le contexte te laissait pas le choix, tu te voyais pas faire autrement.
Non.
Ok, alors cette expérience d'allaitement, Anaïs, elle a eu quoi comme impact dans ta vie? Qu'est-ce que ça a fait bouger comme ligne?
Ça m'a prouvé que quand j'ai des idées arrêtées à 2,50 €, bah, c'est bien de les bousculer. C'est bien de les bousculer. Ça m'apprend, et ça m'apprend toujours, qu'il faut aller au-delà de ses peurs et de ses craintes. Parce que finalement, on découvre autre chose. Et je pense que l'allaitement, c'est une des choses les plus merveilleuses dans ma maternité que j'ai pu vivre.
D'accord.
Parce que ça a vraiment créé un lien entre Iris et moi. C'était notre truc à nous, c'était notre moment à nous, c'était notre proximité à nous, c'était nous deux, quoi.
Est-ce que tu penses que ça aurait été différent si tu avais eu un postpartum plus aisé? Sans douleur physique, sans cette fatigue intense, est-ce que l'allaitement aurait eu la même place, à ton avis, dans ta maternité, si le postpartum avait été cool?
Alors oui et non. Je pense que oui, parce que je suis aussi têtue. Et j'avais quand même quelques personnes, quelques mamans, mais tu sais, des personnes que j'avais pas vues depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans, qui avaient vu que j'avais eu un bébé, qui m'avaient demandé alors est-ce que tu allaites, et je disais oui, et qui m'envoyaient des messages régulièrement en me disant Anaïs, n'arrête pas, c'est dur au début, mais tu verras, c'est une expérience fantastique, n'arrête pas et tout ça. D'accord. Et donc j'essayais de me raccrocher aussi à ces messages-là. Donc c'était pas des personnes que je voyais physiquement, comme l'entourage. Mais c'était des mamans virtuelles que j'avais perdu de vue et qui m'encourageaient dans cet allaitement, quoi. Et je pense que si j'avais eu un postpartum, on va dire, plus doux, peut-être que je me serais plus arrêtée sur les douleurs physiques de l'allaitement et que j'aurais peut-être pas continué. D'accord. Mais à côté de ça, je voulais aussi savoir, et je suis aussi têtue, je voulais savoir ce que ça faisait que d'allaiter sans avoir mal.
Ah,
tu vois,
d'accord.
D'allaiter sereinement, quoi.
Ouais, tu voulais voir ce que c'était l'allaitement normal.
Exactement. Comment est-ce que t'allaites et t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta peau. Et je savais qu'il fallait que je dépasse ce moment de douleur. Sauf que moi, il a duré 1 mois et demi. Au bout de 3 jours. Mais c'est pour ça que je dis peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Mais c'est sûr que ça aurait eu, il y aurait pu y avoir une incidence.
Si tu devais recommencer demain, s'il y avait un deuxième bébé, la question se pose pas, t'allaites?
Ah non, ça se pose pas, non. Okay. C'est, je pense que l'allaitement m'a presque réconciliée avec mon début de maternité catastrophique, tu vois, et mon postpartum catastrophique. C'était D'accord. le seul truc positif, même si c'était dans la douleur. Donc, okay. Si demain, je... par contre, je ferai autrement. Je pense que je prendrai une consultante en lactation.
Ouais. Tu sais que ce que tu as vécu pendant un mois et demi n'était pas normal et que ça aurait pu être autrement.
Et puis, j'en avais quand même vu à la maternité, tu vois, qui me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais ouais. mal. Elle comprenait pas. Parce qu'elle me disait que ce n'est pas normal d'avoir mal quand on allaite. Je disais OK. Mais à côté de ça, elle me disait je ne vois pas pourquoi ça fonctionne. Enfin, pourquoi vous avez mal. Ah, d'accord. Et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi peut-être trouver la bonne consultante en lactation, qui est là vraiment pour t'épauler, pour t'accompagner dans ta galère. Mmh. Et je pense que ça, je le ferai même avant, avant la naissance.
Ouais.
C'est-à-dire de voir quelqu'un avant pour bien m'expliquer les choses. Mais c'est clair que la question se pose pas. Limite, si un jour on a un deuxième enfant, je pense que j'aurais plus hâte d'allaiter qu'autre chose.
Ok. Alors, si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui peut-être allaitent, peut-être sont à l'aube de leur accouchement et vont tenter l'expérience, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Oui, parce qu'attends, il y a trois messages différents du coup.
Il y a trop de questions dans la même. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui ne serait-ce que se pose la question de l'allaitement ? Ce serait quoi ton meilleur conseil ?
Je dirais qu'on ne peut pas. Tant qu'on ne tente pas, on ne peut pas savoir. Mmh. Voilà. Donc, moi, je suis le pro-essaye. Et si ça ne te convient pas, arrête. Et ne te force surtout pas. Mmh. Et après, je suis aussi pour dire que si tu n'en as vraiment pas envie, si ce n'est vraiment pas un truc qui t'attire, bah, le fais pas non plus, quoi. Mmh. Voilà. Et okay. pour les mamans qui allaitent ou qui galèrent en allaitant, il y a de grandes chances pour que ce soit une magnifique expérience. Donc que des messages positifs. D'ailleurs, à toutes les mamans, peu importe allaitement, pas allaitement. Mmh. Et c'était quoi la dernière tranche de maman ?
Non, je crois que c'est ça. On y est. On y est, les mamans qui allaitent ou celles qui se posent la question. Non, c'est bon.
Et celles qui allaitent, vous avez bien de la chance. Moi, j'allaite tout.
Ok. Anaïs, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter un truc qui te vient à l'esprit et que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent ?
Je ne sais pas si ça va être répétitif, mais je conseille vraiment de faire un travail interne pour dépasser ses peurs et ses angoisses et pour ne pas se mettre de barrière, en fait. Parce que je me dis que si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais vécu non seulement un postpartum horrible, mais en plus, je n'aurais pas connu... les joies de l'allaitement malgré la difficulté et la douleur. Et en plus, il n'y a pas que la douleur dans l'allaitement, il y a le renforcement du lien d'attachement, enfin il y a plein de choses. Et surtout, je voudrais dire aussi que le sevrage, même si j'ai vécu mon milk blues, ça n'a pas enlevé cette connexion qu'on a avec Iris. Donc on diabolise, enfin il y a plusieurs teams, il y a des pro-allaitement, des contre, des personnes qui sont contre, etc. Aujourd'hui, Iris, elle prend le biberon, et le plus important, c'est qu'elle soit hyper heureuse, quoi. Et ça n'a pas enlevé ça n'a pas enlevé ce lien-là qu'on a construit ensemble. Et si j'avais pas allaité, on aurait construit un autre lien différemment, tu vois. Mais en tout cas, nous, ça fait partie de notre histoire. Donc, tenter de dépasser ses peurs, aussi difficile que ce soit, ne serait-ce que par curiosité.
Ouais, et puis éviter de vous mettre dans une team. Il y a une seule team, c'est celle des mamans, c'est tout.
Complètement, c'est ça.
Anaïs, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on
non.
se quitte ? Bon, on se quitte comme ça, alors.
Vas-y.
Bon, je te force, alors.
Je suis prête.
Anaïs, contrainte et forcée. Quelle est ta tétée la plus insolite ?
La plus insolite aux toilettes. T'étais aux toilettes. Enfin, ça c'est assez incroyable quand même. C'est particulier.
Ouais, c'est particulier, c'est le mot. C'est le
Exactement.
Mot. C'est particulier et à la fois fréquent.
Oui, mais ça on le sait pas.
Non, ça fait partie des trucs qu'on ne dit pas.
Exactement. T'es aux toilettes et t'allaites, tu dis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi ?
Ouais. Ça se dit pas nécessairement dans les dîners mondains, quoi. Ça ne fonctionne pas.
Même sans dîner mondain.
Le truc le plus glamour, Anaïs, qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement?
Bon, c'est, je vais pas être très originale, hein, je dirais avoir une montée de lait et pas être équipée.
Ouais.
Donc t'es là, tu penses que t'es fraîche, mais en fait pas du tout. Tu marches dans la rue et t'as deux auréoles autour de sur ton t-shirt et puis les gens te regardent et tu penses que, mais en fait non.
Ta position préférée, Anaïs, dans le Kama Sutra de l'allaitement?
Alors, je ne connais pas le nom des positions de Kama Sutra, mais la position... alors, il y avait deux positions que j'aimais beaucoup. Une accroupie au-dessus d'Iris, et elle avait mon sein dans la bouche.
Ouais.
Parce que c'était une des positions qui me faisait le moins mal quand j'étais en souffrance. Et après, tout simplement, poser Iris sur mon sein, allongée. Donc, elle t'était... elle t'était allongée sur mon ventre.
Ok, super. Une espèce de BN.
Exactement.
Si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu dirais quoi?
Douloureusement fantastique.
Ça fait deux. Mais c'est ok.
C'est ok ou pas ça? Et si on colle les deux mots?
Allez, on en fera. Ça en fait qu'un seul. Vas-y, voilà. Redis-le en une fois.
Douloureusement fantastique en un seul mot.
Ok. Merci beaucoup, Anaïs. Merci nous avoir livré ton témoignage. C'était un plaisir de t'écouter. C'est un plaisir de te lire sur ton compte. Je vous invite à retrouver merci. Anaïs sur son compte qui s'appelle Anaïs X et Gigi.
Et Gigi, voilà. pour la petite histoire, c'est les deux premières lettres de mon nom de famille, les deux premières lettres du nom de famille de Paul. Que j'ai trouvé
facile.
Ça cool. Exactement.
Génial. Donc voilà, je vous invite à la retrouver si vous le souhaitez. Anaïs, elle écrit très bien. Et donc voilà, si vous voulez aller lire ses textes qui parlent beaucoup, beaucoup de maternité et de parentalité, ça se passe sur son compte. Merci pour cette histoire. Et à tous, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Salut Anaïs.
Salut.
Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma, mais on change de titre cette fois. Emma nous propose désormais son titre Blinded, qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Waiting for you to bring me back. Well, turns out my love is willing.